With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Binge Audio.
Moyunga 71, épisode 2.
Notre histoire va avancer d'une trentaine d'années d'un coup. 30 années durant lesquelles Emmanuel Cortadelas a dû apprendre à vivre sans son frère Bertrand, mort pour la France au Tchad. 30 années durant lesquelles cette histoire familiale s'est ancrée dans la grande histoire de l'armée, la grande histoire de la France. Mais voilà que le hasard, à l'autre bout du monde, vient éclairer la vérité d'une lumière trouble.
On est en 2001 au Cambodge, c'est ça ? On est sur la terrasse d'un hôtel au bord d'un bras du Mékong. On est 30 ans après la mort de votre frère. Qu'est-ce que vous faites là-bas ?
Alors, à l'époque, j'étais directeur général d'une boîte qui s'appelle Bourbon, et qui avait décidé quelques années auparavant de faire une percée au Vietnam. Et je regardais un petit peu ce qui se passait à côté. Donc j'avais établi des contacts là-bas au Cambodge pour essayer de voir ce qui pouvait être fait dans le domaine des hypermarchés.
Et là, vous rencontrez un personnage un peu particulier.
Au bar du restaurant de l'hôtel, il y avait un ancien militaire français de l'aviation. Donc du coup, il vient se joindre à nous. Et dès que je suis présenté, il tilte sur le nom. Il dit « Ah, Cortadelas, est-ce que vous êtes lié à... » Alors, je lui dis « Oui, c'était mon père. » Donc, il me demande « Pourquoi c'était ?» Je lui dis « Parce qu'il est mort il y a 10 ans. »« Ah bon, bon, vous savez, j'ai travaillé avec lui. » Et puis du coup, il me raconte l'histoire. Donc il me dit j'étais dans les avions qui étaient basés dans le Tibesti, donc pour assurer la couverture aérienne des opérations. Donc ce jour-là, donc on a effectivement décollé de Bardaï, qui était juste à côté, là, qui était quand on est arrivé, c'est une opération combinée, donc entre les forces terrestres et puis nous qui étions en appui aérien. Et quand on est arrivé sur place, donc on a fait des passages, on a très bien vu les types où ils étaient, et donc on a proposé donc au type qui commandait l'opération de passer un coup pour détruire les positions de ces types-là, et comme ça pour qu'après les troupes à pied puissent se positionner sur place comme il faut, quoi. Et le type a répondu « Allez vous faire foutre, le bilan c'est pour nous, c'est pas pour vous !» Bon, c'était un truc un peu traditionnel dans l'armée, c'était l'obsession du bilan, je veux dire. C'était un truc qui vient d'époque de Bijar et de tous les ozos là, des forces parachutistes spécialisées, je veux dire. Bon. Et donc le bilan c'est important parce que c'est ça qui apporte la gloire et qui apporte... Bon. Et donc il a refusé que les types avec leurs avions passent un petit coup sur les positions ennemies. Donc ils sont retournés, ils sont repartis. Et à partir de là, ben, ils sont en plus gourés de pitons. Ils ont mal positionné leurs hélicoptères. Ils sont voilà.
Donc la personne que vous rencontrez était dans les avions qui étaient donc sur cette opération-là, le 21 janvier 71.
Il pilotait un avion. C'était un des pilotes. Il était deux avions. Il était un des deux pilotes d'avion.
Qu'est-ce que vous ressentez au moment où il vous raconte ça ? Parce que ça, c'est quand même, ça vous donne une autre vision, une vision très différente de la mort de votre frère.
Oui. Non, ça me donne la vision d'une imbécillité du commandant de l'opération, je veux dire, qui est bon, qui effectivement était resté dans des schémas. C'est comme quand un footballeur joue pas collectif, quoi. Dire bon, qui veut absolument marquer tout seul parce que c'est son bilan à lui, quoi.
Sauf que là, il y a des morts.
Oui, donc c'est une absence de conscience de d'action collective, si vous voulez. Donc bon.
Est-ce que ça vous fait changer le regard que vous portez sur cet événement ?
Pas sur l'événement, ça me fait changer. Non, parce que bon, vous savez, dans les opérations armées, il y a des tas de circonstances diverses et variées qui fait que bon, si c'est pas comme ça se passe d'une autre façon. Mais bon, c'est pas bon.
C'est le moment où cet entretien prend un tour inattendu. Moi, à cet instant, je ressens une injustice profonde. Je pense que les choses auraient pu s'écrire autrement, que les événements auraient pu prendre une tournure moins dramatique. Je ne peux pas m'empêcher de lui faire part de ce que je ressens.
Un hélicoptère qui se trompe de piton pour déployer des troupes, c'est ce qu'on appelle une circonstance. Un commandant qui refuse un appui aérien qui conduit à la mort de soldats, on pourrait appeler ça une bavure.
Ouais, on appelle ça quand vous voulez, oui.
Malgré ce petit rire un peu trompeur, je sens qu'il se tend. Je ne sais pas si j'aurais dû prononcer le mot de bavure.
C'est des circonstances de commandement, je veux dire. C'est des... Les commandements, si vous voulez, le... de toute façon, on sait bien que dans des opérations armées, à un moment donné ou à un autre, il y a de la casse. Je veux dire, bon. Bon, j'ai, si vous voulez, sur cet officier-là, je veux dire, j'ai un regard très critique maintenant, mais je lui en veux pas fondamentalement. Je veux dire, bon, il était sur place, il était en position de commander. Vous savez, quand vous commandez, bon, moi, je l'ai vu dans d'autres circonstances, quand vous êtes chef d'entreprise, vous avez aussi des pressions qui viennent de toutes parts, vous êtes obligé de prendre des trucs. Ben, de temps en temps, les décisions que vous prenez, elles sont complètement cons, je veux dire. Mais après, il faut assumer, hein, vous assumez, puis vous le faites. Hein,
C'est l'autre question, c'est la question de... Il a pris ses décisions, mais est-ce que vous avez l'impression qu'il a pris ses responsabilités ?
Bon, je pense, oui.
Qu'est-ce qui peut vous faire dire ça, puisque vous avez découvert la vraie version après ?
C'est-à-dire qu'il a dû le... Il a pas cherché à se défausser. Je pense que si... C'est pour ça que je dis que dans ce que j'ai écrit, je dis que je pense que mon père était au courant. J'imagine pas, parce que mon père commandait aussi les forces aériennes qui intervenaient. Bon. Donc forcément, il y a eu des mecs qui sont allés lui raconter ce qui s'était passé. Je veux dire, bon... Comme souvent dans des structures établies, je veux dire, que ce soit l'armée, l'éducation nationale, les avocats, tout comme ça, ben on défend la corporation, je veux dire. Bon, donc la défendre la corporation, c'était pas d'aller raconter à tout le monde qu'il y avait une connerie qui avait été faite, et donc c'était d'assumer. Bon, et donc mon père a, j'imagine, assumé, comme l'officier en question a assumé aussi.
Est-ce que vous auriez voulu le savoir au moment où ça s'est passé?
Je suis pas sûr.
Est-ce que ça aurait pu changer la manière dont vous interprétez ce qui s'est passé?
Rien.
Et vous comprenez que votre père ait pris sa responsabilité,
oui,
de,
bien sûr, oui,
de considérer que c'était un fait de...
pas la peine d'aller foutre un grain de sable dans la... d'aller accentuer les concurrences entre les différents services. Je veux dire, c'était pas la peine d'aller mettre encore plus de désordre dans... Et ça leur a apporté quoi?
La vérité, je sais pas.
Ouais, la vérité, il l'avait.
Mais vous l'aviez pas.
Oui, ça, ok. Bon, ça, c'est une façon de nous protéger. C'est une façon de nous protéger.
Parce que quand arrive ce genre d'événement, ce qu'on a envie au minimum, c'est que ça ne se reproduise pas.
Oui.
Et pour que ça ne se reproduise pas, il faut que ça se sache.
Non.
Non ?
Non. Bon, j'imagine que mon père et le type en question, ils ont eu une explication entre quatre yeux. Et mon père a dû dire ce qu'il fallait lui dire. Enfin, j'imagine, hein, je n'en sais rien. Parce que mon père n'était pas du tout, lui, bilan comme ça. Je veux dire, il n'était pas...
Ça ne vous avait pas fait dire, au moment où vous racontez ça, que la mort de votre frère aurait pu être évitée de manière très simple?
Évitée cette fois-là, mais pas forcément une autre fois. Pas forcément. Peut-être que, et peut-être que même dans une autre, dans l'autre circonstance où les avions seraient passés, il serait peut-être resté un ou deux types qui auraient tiré quand même.
Et vous n'avez pas eu envie d'en savoir plus, d'aller poser des questions ou de...
J'ai un ami actuellement qui est un ancien général d'aviation, à qui j'ai raconté tout ça. Il m'a donné des noms de types qui étaient dans ces opérations-là, je veux dire, à l'époque. Bon. Et il m'a dit, bah tiens, si, m'a fait des trucs. Je me suis dit que c'était pas la peine d'aller creuser encore ces affaires-là.
C'est un détail intéressant, surprenant. Emmanuel Cortadellas avait la possibilité de savoir la vérité et il ne l'a pas saisi. Il faudra y revenir plus tard. Mais à cet instant, j'ai besoin de comprendre pourquoi nous avons une lecture si différente de cet événement.
Moi, lisant ce texte, j'ai un sentiment d'injustice en le lisant. J'ai un vrai sentiment d'injustice. Est-ce que vous pouvez comprendre que je puisse le lire avec un sentiment d'injustice ?
Oui, mais... Oui. Moi, j'ai un sentiment de... Comment on appelle ça ? De fatalisme. Bon, les choses se sont passées comme ça. Elles auraient pu se passer autrement.
Et vous n'avez pas envie que la vérité soit écrite quelque part plus que dans un document à caractère familial ? Parce qu'on apprend toujours de ce genre de situation, d'erreurs, qui sont des erreurs individuelles, qui provoquent des échecs collectifs parfois, mais c'est la question de que ça laisse une trace.
Oui, bon. Quelle en sera l'utilité ?
Là, la voix que vous entendez, c'est celle de Sylvain Lambroso. Il faut que je vous dise quelques mots sur lui. Entrepreneur français expatrié au Québec et proche de Minjo Diot, c'est par lui que nous est parvenu le texte d'Emmanuel. Pour tout vous dire, il est ami avec Marie, la fille d'Emmanuel, et c'est elle, bouleversée, qui lui a fait passer ce récit. Sylvain était dans le studio avec moi depuis le début. Depuis un moment, je le sentais bouillir sur sa chaise. Il se devait d'intervenir dans notre conversation.
Je suis assez d'accord avec David, c'est que il y a souvent, contrairement à ce qu'on croit, une utilité à ce genre d'histoire. On a toujours des enseignements à tirer de ce genre d'affaires. Et puis, ça va, en fait, ça sert. On ne sait jamais à qui ça sert, mais parfois, ça sert.
Ce qu'on ne peut pas savoir aujourd'hui, c'est... parce que vous avez fait des supputations sur le rôle qu'a pu avoir votre père ou les actions qu'il a pu entreprendre. Sauf qu'on ne sait pas.
Oui, parce qu'on ne sait pas, d'autant plus que ça repose sur un seul témoignage qui est le témoignage de cet aviateur. Bon.
Qui a l'air. Qui a l'air précis.
Oui, enfin bon, est-ce que.
Vous y croyez ?
Oui, j'y crois.
Vous m'avez dit tout à l'heure que c'est la version officielle, celle-là.
Est-ce que c'est vrai ?
Vous n'avez pas envie de savoir si c'est vrai ?
Non. Non, c'est faut. On peut pas vivre tout le temps avec son passé. C'est pas. J'ai réussi à mettre une grosse système de cautérisation sur la plaie. Je veux dire, c'est pas la peine d'aller la ranimer. Là, bon. J'ai des enfants, des petits enfants. C'est ça l'avenir.
Vous l'avez raconté. Vous l'avez raconté la version.
Oh non, ça, il y a que. Si, il y a que mes enfants et Nicole qui savent ça. Hein, je n'ai même pas envoyé ma sœur, oui, pratiquement.
Qu'est-ce qu'ils ont dit, eux ?
Ah ben, ils ont trouvé que c'était assez marquant comme récit. Je veux dire,
Ils n'ont pas ressenti d'injustice, eux ?
Non, je pense pas, non. Enfin, en tout cas, ils ne l'ont pas exprimé, en tout cas.
En tout cas, si Marie m'a transmis le texte, c'est quand même un acte fort, parce qu'elle sait exactement ce que je fais.
Est-ce qu'elle vous en a parlé, Marie ?
Ouais.
Qu'est-ce qu'elle vous en dit, elle ?
Mais elle, je pense qu'elle est très marquée par cette histoire.
Ouais.
Vraiment, ouais. Elle considère ça comme une révélation et que c'était important pour elle et puis qu'elle se sent mieux avec ça depuis que vous avez envoyé le texte. Ouais, c'est clairement quelque chose. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est frappant aussi de voir ça, de voir que le texte, il sert à quelque chose, ouais.
Autant au niveau familial, c'est un événement très important, parce que ça a effectivement changé nos vies. Et bon, autant au niveau géopolitique, politique française, c'est vraiment un petit epsilon là, qu'on voit dans le...
Moi, je pense le contraire, parce que, si vous voulez, quand ce qui se passe aussi, en plus, c'est quand vous savez très bien que les gens remettent en cause en permanence l'actualité, et puis les faits d'actualité. Si, derrière, on se questionne jamais sur ce qui s'est passé en réalité... Et que quand on connaît la réalité d'un événement, on ne le communique pas, pour moi, ça jette toujours du doute partout. Ça sert à ça, une enquête journalistique, justement, c'est de mettre en contexte, oui. d'apporter plusieurs voix différentes, et puis moi, je trouve que c'est toujours utile.
La question que je me pose, c'est j'aurais envie de savoir quelle est la version officiellement retranscrite de cette histoire. Moi, je ne sais pas dans ces cas-là, mais c'est une question, je ne sais pas ce que l'armée garde, en fait.
Ouais,
quelles traces elle garde, quel endroit, quel rapport est fait, quelles sont conclusions. Est-ce que ça existe un endroit où... Ben on sait que nous, on a un exemple extrêmement précis de le confronter avec une réalité de quelles traces restent dans la mémoire et qui restent, que c'est notre mémoire collective, en fait, qui reste ces traces-là.
Ouais, alors là, faudrait, je sais pas quels ont été les comptes rendus qui ont été faits à l'époque par les autorités hiérarchiques. Hein,
Peut-être que là, il y a une réponse, de dire, voilà, le général est intervenu, a sanctionné le commandant. Il y a peut-être un endroit où on nous dit, effectivement, qu'il y a eu quelque chose, ou alors, au contraire, qu'il y a une manière de l'écrire qui retranscrit la première version, qui peut-être, d'accord, on est peut-être d'accord, c'est peut-être aussi la bonne, je ne sais pas, mais ça m'intéresse de questionner quelque chose comme ça, d'une histoire qui circule avec une histoire officielle. Et quelle histoire écrite qui est écrite, quelle histoire qui restera.
Alors ça, je sais pas où on peut trouver ça dans les...
Vincennes.
Ah, Vincennes ?
Ouais.
Il garde ça, Vincennes ?
Ouais, bien sûr. Moi, j'en ai consulté plein, des trucs.
Bon, peut-être que j'allais faire un tour, là. Ouais, je vais essayer de regarder ça, ouais.
Est-ce que vous m'autorisez à essayer d'aller voir quelles sont les traces qu'a laissées l'armée sur
Ah, je pensais que vous vouliez que j'y aille moi, mais
on pourrait y aller ensemble. Hein,
Vous le sentez, ce moment où l'appel de la vérité est plus fort que tout.
Alors, moi, sincèrement, je sais pas où on va, je sais pas comment on y va, mais ça m'intéresse de le moment où vous arrêtez l'histoire. En fait, moi, c'est le moment où j'ai aussi envie de la poursuivre.
Parce que la question qui compte, c'est quand même de savoir ce qu'on fait de tout ça maintenant.
Vous voulez qu'on prenne une date tout de suite pour
À ce moment-là, je vous dirai.
D'accord.
Je me demande, est-ce que je ne suis pas en train de chercher une histoire qui n'existe pas ?
Merci beaucoup, Emmanuel.
Ouais. Bah, merci à vous.
Je ne crois pas. Je pense surtout que cette histoire n'est pas encore achevée.
À suivre.
Salut, c'est Sinamir du podcast L'Affaire. En 2016, je suis monté sur un bateau de sauvetage en Méditerranée et ce que j'y ai vu n'a pas changé. En tout, depuis 10 ans, on compte même près de 30 000 morts sur cette mer. Alors dans le naufrage, notre nouvelle enquête, j'ai voulu raconter un cas concret. Comment 130 personnes sont mortes en 2021 à la frontière de l'Europe, malgré des dizaines d'appels de détresse. Qui n'a pas pu les sauver et pourquoi ? Qui étaient ces disparus ? Et surtout, comment on en est arrivé à ne plus parler de 130 personnes qui meurent le même jour sur un bateau au milieu de la Méditerranée ? Le naufrage, c'est la nouvelle série du podcast L'Affaire de Paradiso Média. Une enquête que vous pouvez retrouver gratuitement chaque semaine à partir du 27 mars 2024 sur toutes les applications de podcast.